Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Dans ce nouvel épisode de Droit Devant, on parle de l'impact que pourrait avoir le mensonge sur le CV d'un candidat auprès d'un recruteur potentiel. Le cabinet de recrutement Robert Half y a d'ailleurs consacré une enquête et le résultat de ces travaux est sans appel. 47% des managers qui sont interrogés sur le sujet déclarent que la découverte d'un mensonge sur le CV d'un candidat les ont conduits à recaler une candidature. Alors, quels sont les mensonges qui sont les plus courants? Quelles sont les omissions qui peuvent être acceptables dans le cadre d'un processus de recrutement? Quels sont ceux qui ne le sont pas et qui peuvent donner lieu à des sanctions? Et puis surtout, quel serait le risque encouru pour un salarié qui mentirait sur son CV ou travestirait son parcours professionnel? Alors, concernant les mensonges les plus courants, on s'aperçoit qu'ils concernent en réalité l'expérience à 55% et les diplômes à 53%. Les dates mentionnées sur les curriculum vitae ne sont pas toujours les bonnes, avec quelques ajustements qui peuvent parfois être réalisés par les candidats pour pas qu'un employeur potentiel ne s'aperçoive des vacances de poste qui pourraient avoir lieu dans le parcours du candidat. Les intitulés de poste vont souvent être réécrits aussi pour donner plus d'importance aux fonctions à occuper. Et puis, les responsabilités, on se rend compte aussi, sont parfois étoffées avec des compétences qui ne sont pas toujours maîtrisées. 33% de mensonges sur la maîtrise des langues, par exemple. Sans parler des diplômes qui sont inventés ou qui ne sont pas obtenus, mais avec parfois des scolarités qui sont suivies et qui sont présentées comme si les candidats en étaient détenteurs. Alors, si les mensonges sont effectivement formellement proscrits, certaines omissions, on s'en aperçoit, sont acceptables pour les recruteurs, avec notamment lorsqu'il est question d'informations qui peuvent discriminer injustement un candidat à l'emploi, sans rapport avec sa capacité à exercer un poste. Mais plutôt des sujets comme l'adresse physique, avec une adresse qui pourrait être considérée par le recruteur comme trop éloignée du lieu de travail ou située dans un quartier mal réputé. Effectivement, les candidats peuvent choisir de ne pas indiquer d'adresse ou de ne pas, au même titre, qu'ils ne feraient pas figurer leur photo, leur âge ou possiblement un handicap. Ou encore le fait qu'ils aient créé une entreprise, puisque parfois le fait d'exercer une activité d'auto-entrepreneur en parallèle ou d'avoir une activité de prestataire de service n'est pas acceptable pour une société qui recrute. Donc ça, ce sont des omissions liées à l'identité physique d'un candidat qui sont classiquement admises lorsqu'elles sont découvertes et qui, même si elles sont découvertes et non admises par l'employeur, ne donneront pas lieu. Si elle donne lieu à un licenciement, en tout état de cause, eh bien, le licenciement ne sera pas considéré comme fondé, parce que lié précisément à l'identité du candidat. En revanche, on a des mensonges qui sont clairement éliminatoires et qui, eux, vont être formellement proscrits. C'est ceux qui trompent le recruteur sur votre capacité à occuper le poste. Ce sont des mensonges sur vos compétences, sur vos connaissances techniques, sur la réalité de votre réseau, ou sur vos expériences passées, ou sur les résultats que vous avez obtenus sur vos précédents postes occupés. Et c'est vrai qu'on comprend l'objection d'un recruteur qui considérera qu'il est difficile de faire confiance à un futur collaborateur qui, avant même d'avoir travaillé, a pu mentir sur des sujets-là, parce que l'essence même d'un process de recrutement, c'est d'évaluer la capacité du candidat retenu à occuper un poste avec succès. Concrètement, quels sont les risques maintenant encourus par le salarié qui ment sur son CV? La jurisprudence est claire, le salarié qui ment sur son CV encourt plusieurs sanctions, la nullité du contrat pour dol, un licenciement pour manquement à l'obligation de loyauté également, ou pour insuffisance professionnelle, si les capacités et les qualités professionnelles évoquées ne sont pas au rendez-vous, effectivement on pourra considérer que les compétences et les performances sont insuffisantes, et puis un engagement de sa responsabilité personnelle et une condamnation à des dommages et intérêts. Alors, sur le dol, qui est la première sanction encourue, c'est la nullité du contrat pour dol. Le dol, c'est défini par le Code civil aux articles 130 et suivants. Ça consiste à recourir à des manœuvres frauduleuses pour amener un contractant à s'engager. Mais il faut savoir que le dol n'est pas facilement retenu par les tribunaux et que pour demander la nullité du contrat pour dol, il faut vraiment que l'employeur fasse la preuve non seulement de la manœuvre frauduleuse, mais aussi de son caractère déterminant dans le process de recrutement. Alors, pour vous donner un exemple concret, le fait de, par exemple, présenter son CV sous un jour flatteur, avec des mentions qui sont volontairement floues ou imprécises, n'est pas, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, une manœuvre frauduleuse qui va permettre d'annuler le contrat de travail. Pour illustrer, je peux vous citer l'exemple d'une salariée qui avait été engagée comme responsable d'un centre d'études de langue dans un organisme de formation. Et sur son CV, elle mentionnait une période en disant qu'en 1993, je crois, elle avait été assistante de la responsable de formation de Renault, donc c'est chez Renault, dans le service formation linguistique. Et en réalité, cette jeune femme avait effectivement eu une expérience chez Renault de 4 mois, mais dans le cadre d'un stage, et absolument pas en qualité d'assistante de la responsable de formation. Et donc, selon les juges, cette mention litigieuse était certes imprécise, probablement volontairement, elle était effectivement susceptible de concourir à une interprétation erronée, mais elle n'était pas constitutive d'une manœuvre frauduleuse en tant que telle. Et donc, concrètement, il a été retenu qu'il n'y avait pas réellement eu de mensonge et que la salariée avait bien une expérience professionnelle chez Renault. Donc, ce que ça change pour elle, évidemment, c'est que le licenciement qui a été prononcé à son encontre n'a pas été considéré comme fondé. À l'inverse, si l'employeur rapporte la preuve du rôle déterminant du mensonge dans l'embauche du salarié, ou que ce dernier n'a pas non plus les compétences nécessaires pour remplir ses fonctions, contrairement à ce qu'il prétendait, là, le licenciement va pouvoir être retenu. Donc, on peut citer un exemple qui est celui d'un salarié qui voulait se faire embaucher dans une école privée. Et ce candidat avait prétendu avoir suivi une formation dans une école de commerce et être titulaire d'un diplôme obtenu à Paris Dauphine. Et en fait, ces fausses affirmations avaient clairement joué un rôle déterminant dans le recrutement. Et donc là, le contrat de travail a pu être annulé par les juges. Et le salarié a en outre été condamné à verser des dommages et intérêts à l'employeur parce que l'histoire s'était répandue auprès des parents d'élèves et dans la presse et qu'elle avait causé un véritable préjudice à l'école. Donc le fait de savoir s'il s'agit véritablement d'un mensonge réalisé en conscience et qui a trompé le recruteur dans sa décision, c'est un peu ça, c'est là où il faut placer le curseur, de savoir véritablement quel a été le rôle du mensonge, a-t-il été déterminant ? Et si c'est le cas, la nullité du contrat pour dol pourra être prononcée, au-delà, comme je le disais tout à l'heure, des licenciements qui pourraient être prononcés pour manquement à l'obligation de loyauté ou pour insuffisance professionnelle, parce que finalement, les compétences professionnelles ne sont pas au rendez-vous, en lien direct avec l'absence de possession du diplôme. Alors, je voulais aussi vous parler dans cet épisode, pour illustrer le propos, d'un dossier qu'on a traité récemment au cabinet, qui est sur un sujet un peu connexe, lié à la vie privée du salarié, en fait. Dans quelle mesure, eh bien, un nouvel employeur, peut sanctionner un salarié, et éventuellement même aller jusqu'à prononcer un licenciement contre ce salarié pour des faits qui seraient tirés de sa vie privée. Dans notre cas, on a un client qui nous a consulté parce qu'il avait appris, il venait de recruter quelqu'un, qui était d'ailleurs à ce moment-là encore en période d'essai, que cette personne avait été condamnée chez son précédent employeur pour des faits de pédopornographie et notamment parce qu'il consultait sur son lieu de travail précédent des sites pornographiques et de pédopornographie. Et donc, il s'interrogeait sur l'opportunité ou pas de procéder à la rupture de son contrat de travail. Il s'agit, dans ce cas précis, de faits qui sont tirés de la vie privée du salarié. Alors, modulo le fait qu'effectivement, si le salarié consulte ses sites sur le lieu de travail, là, c'est encore autre chose. Mais dans le cas qui nous préoccupait, c'était une condamnation qui avait été prononcée et un licenciement qui avait été prononcé chez le précédent employeur et qui donc, a priori, n'avait pas d'incidence chez le nouvel employeur. Et notre client, c'est-à-dire le nouvel employeur du salarié, en avait été informé parce que quelqu'un vraisemblablement anonyme, en fait, et de mal intentionné, nous avait fait parvenir la lettre de licenciement qui avait été envoyée par le précédent employeur. Donc, c'est comme ça qu'on avait connaissance de cette consultation de sites pédopornographiques chez le précédent employeur. D'une manière générale, le principe sacro-saint qui est consacré par la jurisprudence, c'est qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement pour des faits qui sont tirés de sa vie privée. Maintenant, la jurisprudence est venue apporter un certain nombre de tempéraments à ce principe. Et le tempérament principal, c'est que ce principe ne vaut pas quand l'entreprise subit un trouble caractérisé en raison du comportement du salarié. Alors, je vous donne un exemple, c'est un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation qui a validé le licenciement d'un salarié qui avait été condamné pour agression sexuelle sur mineur dans le cadre d'une activité de loisir qui n'avait rien à voir avec son travail. C'était un employé d'une société de champagne et lui-même, il exerçait les fonctions de vigneron au sein de cette société. Et il se trouve qu'il a été déclaré coupable de fait d'agression sexuelle sur mineur qu'il avait commis dans le cadre d'activités d'entraîneur de football qu'il avait dans une ville où il travaillait. Et il avait été écroué pour ça. L'employeur n'a pas licencié le salarié pendant son incarcération, mais dès que le salarié est revenu dans l'entreprise, il se trouve qu'il y avait un certain émoi qui avait été suscité par ce retour. Les autres salariés ont commencé à manifester et à refuser de travailler à ses côtés. Et donc là, l'employeur a engagé une procédure de licenciement. Et le sujet, c'était de savoir, mais en fait, ce sont des condamnations qui sont prononcées sans lien, enfin qui relèvent de sa vie privée, donc sans lien à strictement parler avec le travail. Il n'est pas au contact d'enfants puisqu'il a des fonctions de vigneron dans une société de champagne. Donc, est-ce qu'on peut le licencier pour ce motif ? Et en fait, le licenciement n'a pas été prononcé par ce motif pour l'employeur, mais il a été prononcé avec dispense de préavis, donc un licenciement pour faute grave, pour trouble objectif au bon fonctionnement de la société. Donc, c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher les agissements en tant que tels, mais on peut lui reprocher le trouble qui est causé par les condamnations les faits dont il est question. Et c'est régulièrement que la Cour de cassation se prononce de cette manière, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir valider les licenciements de salariés qui sont condamnés, par exemple pour de la prison, ou même sans forcément qu'il y ait des peines de prison. Mais néanmoins, dès lors que l'entreprise invoque un trouble objectif qui est causé au bon fonctionnement de la société et qu'elle le caractérise, évidemment, elle va pouvoir procéder au licenciement du collaborateur. Donc nous, dans notre cas, l'employeur que nous conseillons n'avait finalement pas donné suite à la procédure de rupture du contrat. Notre salarié était donc en période d'essai. Il a été sanctionné par le précédent employeur. Notre client a fait le choix de le maintenir dans les effectifs en étant particulièrement vigilant, mais de le maintenir en tout cas temporairement dans les effectifs. Mais en tout état de cause, il aurait pu valablement prononcer un licenciement si le salarié s'était livré aux mêmes pratiques au sein de ses effectifs, c'est-à-dire avait lui-même consulté des sites pornographiques durant son temps de travail. Là, évidemment, pas tellement de sujet, avec un procès-verbal de conseil d'huissier pour justifier des horaires de connexion. Ou si, sans qu'il y ait cette consultation sur le lieu de travail, les salariés avaient été au courant des pratiques de consultation pédopornographique chez le précédent employeur et que ça avait suscité un trouble au sein de l'entreprise parce que les autres collègues de travail refusaient de collaborer, de travailler à son contact. Donc c'est la fin de cet épisode consacré au CV des candidats. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez quelques petites secondes à nous consacrer, à nous laisser un message sur iTunes ou une note 5 étoiles sur iTunes. C'est le plus simple et le plus efficace des moyens pour nous permettre de diffuser plus largement ce podcast. Et je vous dis à très bientôt.